réforme, les psaumes de la réforme en France. Voilà comment on chantait les psaumes au XVIe, et qui sont traduits par Théodore de Bèze et Clément Marot, qui ont donc fait une traduction des psaumes en vers français. Alors là, le petit problème, c'est que ça ne suit pas du tout le texte hébreu, mais c'est à partir du texte hébreu qu'on fait une sorte de glose sur le texte du psaume. Mais vous avez vu, les mélodies sont superbes, vous en ferez écouter d'autres. Le grand compositeur de cette époque-là, c'est Goudimel. Hein, Goudimel, qui est un protestant de Genève, et qui va mettre en musique les psaumes. Alors, avant de venir au psaume 1, je vais faire un petit peu de retour sur la méthode et continuer ce que j'ai commencé à faire autour de la sémantique. Hein, je vous ai parlé la dernière fois des structures des psaumes, et en particulier des inclusions, des parallélismes alternés ou concentriques, et avec cette règle qui est utile, c'est-à-dire que si on a repéré un parallélisme alterné ou concentrique dans un psaume, il faut toujours l'interpréter et surtout voir avec quoi on fait le parallélisme. Il ne suffit pas de dire qu'il y a un parallélisme entre le début et la fin, il faut montrer en quoi justement les deux textes se renvoient l'un à l'autre et s'interprètent l'un par l'autre. Avant de m'embarquer dans la sémantique, je voudrais faire une petite réflexion sur le langage poétique, assez généralisé, sur comment fonctionne le langage poétique par rapport au langage ordinaire. Ça en quelques temps. Et à la fin, je vous ferai écouter un texte que j'aime bien, parce que dans ce texte que vous allez écouter, il y a deux personnes. Il y en a une qui parle en langage informatif, c'est-à-dire un langage d'information, et l'autre qui est dans un langage émotionnel. Et vous verrez que tout le comique de ce sketch bien connu, eh bien, tient justement au fait qu'on est en train de se parler sur deux longueurs d'onde complètement différentes, à la fois l'information et la communion ou la communication. En gros, on peut distinguer que dans tout acte de langage, vous allez voir, c'est très simple, mais au point de vue linguistique, c'est assez calé. En fait. Parlons, et on apprend à parler. C'est démonter de langage, c'est-à-dire faire un peu de la linguistique. Alors là, ça devient un peu compliqué. Dans le langage de l'information, eh bien, il y a un dictionnaire précis pour désigner les choses. Et plus je suis précis, mieux cela vaut. On pourrait dire en gros que dans l'information, eh bien, l'idéal, c'est de trouver le mot qui convient à ce que vous voulez désigner. Par exemple, en matière de médicaments, il vaut mieux avoir le nom correct du médicament que vous allez chercher chez le pharmacien, parce qu'une erreur d'étiquette peut être assez grave. De même, si vous voulez, au point de vue mécanique, les gens qui ne sont pas du tout versés là-dedans, et l'informatique, c'est encore pire, si je vous envoie acheter une clé de 17, vous allez me demander si elle est à œil, si elle est à pan, si elle est plate, si elle est... etc. Vous voyez ? Donc, il y a des divisions. Et chaque métier a son langage technique, auquel, je dirais, le profane ne comprend rien. Moi, je ne comprends rien au langage du droit, ou très peu. Or, en droit, c'est très important de distinguer entre un homicide ou un assassinat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Entre un crime et un délit, ça ne relève pas tout à fait de la même cour. Donc, vous voyez, le langage informatif, et il existe en théologie. Au fond, quand on fait de la théologie, on fait un certain discours sur le Christ ou sur Dieu, et on essaie de trouver des mots techniques qui vont dire au mieux ce que j'ai à dire. Et sur le Christ, eh bien, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et le credo, par certains côtés, ramasse en quelques concepts l'essentiel de la foi, ou tout au moins ce qui a été mis en question dans les premiers siècles. Donc, vous voyez, le langage informatif est un langage très précis. Et quand vous ne savez pas le mot d'une chose et que vous cherchez à vous la procurer, vous dites à la personne, vous savez, c'est un truc qui sert à ou qui a telle forme. Et à ce moment-là, c'est exactement ce que vous dites. En revanche, dans le langage émotionnel, il n'y a pas de mots pour dire la chose. Il n'y a pas de mots. Tous les mots se valent. Par exemple, si vous dites à Dieu « mon berger » ou « ma citadelle », c'est peut-être pas la peine d'aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est qu'un berger ou une citadelle, quoique c'est pas mauvais de savoir exactement ce que veulent dire les mots. Mais je peux dire à Dieu « mon berger, ma citadelle ». Et pourtant, un berger n'a rien à voir avec une citadelle. De même, à l'être aimé, si vous lui dites « mon chou » ou « mon rat », eh bien, dans le premier cas, il est assimilé à la flore. Hein, le chou, c'est de l'ordre de la flore, alors que le rat, c'est plutôt de l'ordre de la faune. Et avec les gens qu'on n'aime pas du tout, d'ailleurs, dans les psaumes, c'en est bourré, on va traiter les autres d'animaux. De taureau, de lion, de chien, etc. Hein, c'est général. Donc, dans le langage émotionnel, quand vous dites « Seigneur, prends pitié », bon, ben, vous pouvez dire aussi « au Christ, prends pitié ». C'est un peu équivalent. C'est pour ça que dans les psaumes, vous allez avoir des noms de Dieu ou des noms d'ennemis qui sont d'une très grande variété. Il n'y a pas moyen de mettre la main sur l'émotionnel. Aucun mot ne convient et tous les mots conviennent. Vous voyez un petit peu la grande différence entre le langage informatif et le langage émotionnel. Ça ne veut pas dire que dans un psaume, si j'ai berger ou citadelle, eh bien, je ne vais pas pouvoir en mancher n'importe quelle suite. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir traiter le berger comme la citadelle. Je ne peux pas dire que la citadelle me nourrit, hein, comme dans le psaume 23. Ou me fait paître, c'est-à-dire que si j'ai berger au début, je vais avoir paître, je vais avoir eau, je vais avoir herbe, je vais avoir nourriture, je vais avoir pré, etc. Donc si vous emmanchez un discours émotionnel avec un certain registre, vous êtes obligé de le suivre jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle la chaîne sémantique. On va la revoir tout à l'heure. Deuxième point sur lequel s'opposent les deux types de langage, c'est le point de vue de la fonction. C'est assez simple à comprendre, mais la fonction du langage consiste, dans le langage informatif, à remplacer les choses par des mots. C'est un petit peu plus léger. Vous avez peut-être lu dans votre enfance les voyages de Gulliver de Swift. Eh bien, sur l'île de Lilliput, il imagine qu'au début, il n'y avait pas de langage. Et que les gens communiquaient, eh bien, uniquement en faisant voir à l'autre ce dont ils voulaient parler. Par exemple, j'ai envie de parler d'un chat, j'amène du sel. Bon. Et les gens de Lilliput se promenaient avec des grosses hottes, et ayant dans la hotte tout ce qu'il fallait pour communiquer avec l'autre. Bon. Le problème, c'est quand je voulais communiquer de glacier, de montagne, d'océan, là je n'avais pas ça forcément dans ma poche. Et donc c'est ainsi que naquit le langage, qui est quand même plus léger à porter que la chose même. Mais on voit très bien que dans le langage informatif, le but, en quelque sorte, des mots, c'est de se substituer aux choses et de les remplacer. Ça fonctionne comme des étiquettes. Dans le langage de communion ou dans le langage émotionnel, ça ne repose pas du tout sur un principe d'équivalence. Et je dirais que la fonction première du langage émotionnel, c'est de suggérer. On suggère quelque chose. Et quand vous lisez le psaume 23 ou le psaume 1 qu'on va étudier tout à l'heure, ça suggère quoi? Ça suggère une expérience que je ne peux pas dire avec des mots. Ou tout au moins, je la dis avec des mots le moins mal que je peux, mais je suggère plus que je n'affirme. langage théologique, au contraire, est un langage très informatif. Mais vous avez quand même toute une voie au point de vue de l'enseignement de la théologie qui a été très important, qui est l'esthétique. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture. Dans un tableau de Jérôme Bosch, il y a plus, par exemple, dans le portement de croix de Jérôme Bosch, il y a plus dans ce tableau qu'il ne peut y avoir dans un discours que je pourrais faire sur le paradis ou sur l'enfer. Et l'enfer de Dante ou le paradis de Dante, eh bien, j'ai beaucoup plus de choses que ne pourra en dire le théologien qui, lui, sera limité à des termes assez techniques pour définir l'enfer. Vous avez un théologien contemporain qui s'appelle Urs von Balthasar, dont vous avez certainement entendu parler, qui, lui, essaie de faire une théologie à partir de l'esthétique, c'est-à-dire à partir de la littérature. Et moi, j'ai été amené un petit peu à faire une théologie un peu esthétique, justement fréquentant les psaumes ou la Bible. La Bible est en grande partie du langage de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'elle nous informe sur un certain nombre de choses, mais ce n'est pas de l'information au sens conceptuel. Vous avez une très belle phrase de Paul Valéry à qui on demande qu'est-ce que c'est que la poésie. Et il répond « La poésie est l'essai de représenter ou de restituer par les moyens du langage articulé ces choses ou cette chose que tente obscurément d'exprimer les cris, les larmes, les caresses, les baisers, les soupirs. » Donc la poésie, c'est l'essai de représenter ou de restituer par les moyens du langage articulé ces choses ou cette chose. Quand je dis à Dieu que je n'en peux plus, quand je crie vers lui comme dans les psaumes, je ne l'informe pas puisqu'il est au courant de ça. Mais je veux l'associer à ma souffrance. C'est pour ça que c'est... Dieu sait parfaitement ce dont... La prière de demande ne consiste pas à informer Dieu sur mes propres besoins, mais à vouloir qu'il soit associé à ma peine ou à ma peine. Cause de la confusion qui pourrait y avoir. Associer Dieu ou vouloir qu'il soit partie prenante de ça. Donc, dans le langage émotionnel, la fonction, c'est plutôt de suggérer une expérience en sachant que toute expérience est unique. Le langage est commun. Le gros problème du langage, c'est qu'en fin de compte, n'importe lequel d'entre nous peut dire cette phrase qui est « J'ai perdu mon père » ou « J'ai perdu ma mère ». Le problème, c'est que, en général, quand nous entendons cette phrase-là, on a du mal à entendre la singularité de ce qui est dit et on a tendance, en quelque sorte, à dire « ben moi, comme je te comprends, j'ai perdu la mienne ». Et par certains côtés, il faut décrypter derrière cette phrase absolument banale la singularité, c'est-à-dire qui était votre père pour vous, dans quelles circonstances s'est passée sa mort, enfin, et qu'est-ce que ça retentit sur votre affectivité? Nous employons les mêmes phrases, mais pour exprimer des expériences complètement. Le seul cas où vous ne pouvez pas faire le coup de dire à quelqu'un, c'est quand quelqu'un est en train. Et écouter la singularité, c'est ça la fonction du langage émotionnel. Troisièmement, l'usage. Dans le langage de l'information, sauf le cas des professeurs, je n'ai pas à répéter une chose que j'ai déjà dite, sinon vous allez me prendre. Mais ça peut être utile quand même, pour l'enfoncer dans vos têtes, que je répète plusieurs fois la même chose. Donc ça, c'est plutôt de la rhétorique professorale. Mais habituellement, si je vous dis une information, hein, en vous disant par exemple Nelson Mandela est décédé, si vous ne le saviez pas, hein, si je le répète 5 minutes, ça va donner des signes de fatigue. Alors que le langage émotionnel, au contraire, ne se nourrit que de répétition. Le type même de la prière à répétition, c'est par exemple Seigneur, prends pitié. Qu'est-ce qu'on dit après ? Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié, etc. Agneau de Dieu, on répète 3 fois agneau de Dieu. Vous voyez ? Une espèce de répétition. C'est exactement dans la même chose dans le langage amoureux. La répétition des mots est fondamentale. J'aime à quelqu'un, je t'aime. Enfin, quatrième élément qui est très important, c'est le point de vue du sens ou les mots pour le dire, et c'est ce qu'on appelle d'un terme technique en linguistique, c'est la Par exemple, je vous dis, j'ai soif. Et vous allez tout de suite comprendre qu'il faut m'apporter soit, et non pas un sandwich. Si vous m'apportez un sandwich, c'est soif, ça renvoie à quelque chose de précis. J'ai faim, j'ai chaud, etc. Dans le langage émotionnel, les phrases ne signifient jamais ce qu'elles disent. C'est la connotation. Elles sont porteurs d'un autre sens. Je vous donne un exemple. Il arrive quelquefois d'aller dîner chez des amis qui ont des jeunes enfants. Hein. La soirée démarre avec la famille où les enfants sont là. Bon, puis à un moment donné, on dit... Et à ce moment-là, ils disparaissent. Et tout rentre dans l'ordre et les adultes se retrouvent entre eux. Et puis au bout d'un certain temps, on entend une petite voix qui est soif. Alors, elle peut répondre dans le langage de l'information, tu te lèves, tu vas dans la salle. Vous êtes sûr que 5 minutes après, vous allez avoir moment, j'ai chaud. Et au fond, la bonne mère a compris que moment, j'ai soif, ça veut dire j'ai soif de toi. Bien que dans les psaumes, vous allez trouver aussi bien « j'ai soif, mon Dieu » ou « j'ai soif de toi, mon Dieu », c'est-à-dire à autre chose. Donc le langage, à la fois, il voile quelque chose et il dévoile autre chose. C'est-à-dire que la phrase « le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », c'est qu'elle est heureuse d'autre chose, au-delà des mots, il y a un au-delà du sens. Vous avez compris un petit peu ces 4 caractéristiques. Scène avec un sketch. Vous connaissez sûrement, c'est Yves Montand et Simone Signoret. Et j'ai eu beaucoup de mal à vous préparer. La même entrée que l'iPod. Évidemment, si on veut un iPod un peu plus fort, on est obligé d'augmenter le micro et ça fait du Larsen. Oui, alors donc, quand nous faisons une analyse des psaumes, il faut absolument être assez rigoureux, c'est-à-dire que le mot qui est présent dans le texte, il faut que je l'analyse comme tel, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'information, hein, ça ne se réduit pas à de l'émotionnel. Mais en sachant qu'il y a toujours un deuxième niveau qui est derrière et qu'il faut essayer d'atteindre. Voilà, c'est ça qui est la grosse difficulté. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement dans de l'information, on n'est pas totalement dans de l'émotionnel, mais dans un mélange des deux. On est un peu au milieu de la courbe. Alors, premièrement, pour ce qui est du décodage sémantique, il faut, c'est toujours dans le papier que je vous ai donné, hein, tout ça, il faut prendre le mot dans son contexte culturel. Hein, c'est à la page 9 du papier que je vous ai donné à la première séance. Vous retrouverez tout ça si vous ne l'avez pas amené. Hein. Mais que ce soit un petit peu votre boîte à outils, donc amenez-le quand vous pouvez. Par exemple, si je lis un poème égyptien ou israélite où il est question de l'eau, l'eau n'a pas tout à fait le même sens que si je lis un poème scandinave, hein, où il pleut tous les jours, ou un poème breton. Je ne veux pas faire de polémique avec la Bretagne, mais je trouve qu'il peut souvent. Non. Mais, et du coup, un poème qui est né dans un pays où l'eau est quelque chose d'extrêmement rare, dans un psaume quand il va être question d'eau, il ne faut pas que vous transposiez là-dessus la Bretagne ou la Scandinavie, parce que le mot « eau » à la fois pour dans toutes les cultures, signifie à la fois la fécondité du sol, la vie, la mort, le déluge, l'apaisement de la soif, etc. Mais plus encore dans un pays aride comme l'est le Proche-Orient. Hein, ça n'a pas du tout la même valeur. De même, le mot « ciel » que nous avons vu dans le psaume 8, il peut renvoyer à la fois au ciel des dieux, au ciel des astres et au ciel des oiseaux. Donc là, il faut que je fasse attention, c'est-à-dire que mon découpage à moi, le mot ciel, je ne sais pas ce qu'il évoque dans votre tête, mais a priori, il n'évoquera pas forcément les oiseaux, ni les astres, ni les dieux. Alors justement, dans la Bible ou dans un psaume, il faudra voir si le mot ciel, eh bien, connote plutôt ce qu'on appellerait le ciel des oiseaux, ou bien le ciel des dieux. Alors en anglais c'est commode, ou en allemand il y a deux mots, hein, heaven, sky, c'est différent. Bon, en français on est coincé, on n'a qu'un seul mot, et en hébreu aussi, donc on est réduit au problème précédent. Deuxièmement, le mot en relation avec les autres mots. Le sens d'un mot dans un texte, alors ça, retenez bien cette règle-là, elle est importante. Le sens d'un mot dans un texte lui vient surtout des autres mots présents dans le texte et avec lesquels il fait système. Un mot est un élément d'un système, et pour trouver, si vous voulez, le sens d'un mot, bien, il faudra effectivement regarder tout ce qui va avec. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La chaîne sémantique, c'est-à-dire j'ai berger, absence de manque, vers pâturage, reposer, eau tranquille, faire vivre, guider, bon sentier, val ténébreux, ne pas craindre, bâton, houlette, etc. Vous voyez, j'ai 10 mots à la suite de berger. Et si j'avais commencé avec un autre mot que berger, par exemple le mot de guide de montagne, ou je ne sais pas quoi, ou pas un pasteur, mais un agriculteur, je ne pouvais pas prendre ces mêmes mots-là, puisque ça relève de l'expérience pastorale, voyez. Et du coup, la chaîne sémantique s'embarque sur la chaîne pastorale. Vous avez ça dans pas mal de récits, par exemple, les contes. Le conte de Cendrillon peut se décliner selon deux modalités, ou bien on dit au début du conte « Cendrillon va à la messe », alors, on va décliner un petit peu la messe, la liturgie, les chants, les robes, etc. Bon. Ou bien il y a une autre version du conte, Cendrillon va au bal. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose que la messe. Et là, on va avoir une autre chaîne sémantique qui va se décliner. Donc, je dirais que quand vous voyez démarrer un mot dans un psaume, le berger, le troupeau, etc., puis d'autres psaumes qu'on va voir, heureux, on va voir ça tout à l'heure dans le psaume 1. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça connote, ou qu'est-ce qui va aller avec ces mots-là, hein, qu'est-ce qui va aller avec. En sachant que vous allez aller de surprise en surprise, au sens où on ne mettra pas dans la même chaîne sémantique ce que vous metteriez spontanément dans cette chaîne-là. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vit complètement en citadin qui ne va jamais à la campagne aura beaucoup de mal à comprendre l'idée du pasteur ou du berger. C'est pour ça que pendant les vacances, on assiste à des scènes formidables où les gamins découvrent pour la première fois ce que c'est qu'un troupeau de chèvres ou bien un berger qui s'occupe. Bon, regarde ça. Moi, quand j'emmène des gens en Israël, quelquefois, je leur dis, regardez à droite, scène biblique. Alors, scène biblique, c'est un berger qui est à son cheptel et qui le conduit dans le désert. Bon, ben, c'est, voilà. On a des choses comme ça tout à fait typées. Donc, ça, c'est le deuxième niveau de l'analyse sémantique. Les mots dans leur contexte culturel et les mots en relation avec les autres mots qui forment système dans le texte où ils se trouvent. C'est pour ça qu'il est bon de regarder ce qu'il y a autour des mots. C'est ça qui est précis. Troisième niveau de l'analyse sémantique, il faut creuser plus profond et quadriller le poème pour faire affleurer ses champs sémantiques. Alors ça, c'est une opération, c'est à la page 10 que je me retrouve. C'est-à-dire qu'on va essayer de repérer un petit peu quels sont les champs sémantiques qui sont présents dans un texte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ sémantique? Un champ sémantique, ou un registre, on a tendance aujourd'hui à critiquer ce mot de champ sémantique, mais en gros, c'est un registre de mots qui vont sur la même chaîne, sur la même ligne, qui vont ensemble. Berger, pâturage, etc. Vous voyez, un champ sémantique, c'est tout ce qui englobe et qu'on va désigner sur le thème. Qu'est-ce que c'est que la pastorale? La pastorale, c'est un berger, une houlette, un bâton, un troupeau, des herbes, etc. Vous voyez, c'est ça un champ sémantique. On appelle ça aussi registre. Bon. Lorsque vous étudiez un psaume, il faut toujours commencer par le champ sémantique de l'espace et du temps. Pourquoi commencer par l'espace et le temps? Bien, tout simplement parce que, comme nous l'a très bien montré M. Kant dans la critique de la raison pure, nous ne savons pas ce que c'est que l'espace et le temps, mais nous ne pouvons pas penser une chose en dehors d'un espace-temps. C'est-à-dire que si vous pensez à n'importe quoi, ou si vous dites quelque chose, vous ne pouvez pas le dire ni le penser en dehors de coordonnées spatiales ou temporelles. Donc c'est ce qu'il appelle les formes a priori de la sensibilité, c'est-à-dire de la perception, mais nous ne pouvons pas appréhender les choses sans les mettre dans un espace et dans un temps donné. Pour déterminer ces champs sémantiques, eh bien, je vous conseille une technique qui est très simple. Par exemple, pour l'espace, vous allez prendre un stylo bosse d'une certaine couleur, et vous allez souligner dans le texte tout ce qui a trait à l'espace. Vous allez mettre en jaune tout ce qui a trait à l'espace dans votre texte. Bien. Ça peut être un espace statique ou dynamique, c'est-à-dire statique, c'est un espace qui ne bouge pas. Dynamique, au contraire, on se déplace. Marcher, courir, s'asseoir, etc. C'est un espace où il se passe du mouvement. Ça peut être aussi un espace ordonné en hauteur, en profondeur ou en largeur. Par exemple, dans le psaume 8 ou dans le psaume 95, vous avez vu qu'on partait du plus haut, les dieux, au-dessus des dieux, il y a encore les dieux, puis au-dessus des dieux, puis il y a Dieu, bon, il y avait. Alors, au-dessus des dieux, on descend ensuite avec un autre espace qui est en dessous, les dieux. En dessous des dieux, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le firmament ou les étoiles et la lune, ça c'est l'espace haut, puis on arrive à la Terre, et la Terre, ben, elle n'est pas uniforme, il y a du haut et il y a du bas, le haut c'est les montagnes, et le bas, eh bien, c'est la mer ou les abîmes, etc. Donc je descends de plus en plus dans la verticalité du haut jusqu'au bas. Donc quand vous regardez un psaume et que vous analysez son espace, soyez sensible, est-ce que c'est dynamique ou statique? Est-ce que c'est ordonné verticalement ou horizontalement, parce que vous pouvez avoir un espace avec un point qui va se diffuser comme des cercles concentriques autour de ce point. Ça, c'est un espace vertical. un espace horizontal. Mais vous avez aussi l'espace vertical, c'est-à-dire qu'on descend du haut vers le bas, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup d'espaces qui descendent, qui vont du bas vers le haut. Mais dans la Bible, par exemple, vous ne trouverez jamais l'expression, peut-être une fois ou deux, pour désigner le monde, on dit non pas la terre et le ciel, mais le ciel et la terre. On part du haut pour aller vers le bas. C'est très rare de trouver la terre et le ciel. Ça existe, hein, dans un cantique que nous chantons, terre et ciel chantés sans fin. On part de la terre. Mais c'est assez rare dans l'Ancien Testament qu'on parte de la terre. De même, s'agit-il d'un espace, un point dans l'espace, ou bien une ligne, ou bien au contraire une surface, voyez, bon, de regarder un peu. Alors vous mettez ça avec une couleur. Bien. Deuxième champ sémantique par lequel il faut continuer, le temps. Le temps, la temporalité. Bien, par exemple, le poème signale, est-ce qu'il y a le jour? Est-ce qu'il y a la nuit? Est-ce qu'il y a l'aube? Est-ce qu'il y a l'aurore? Est-ce que ce qui est dit est un temps cyclique, un temps répétitif, ou un temps long, un temps bref, un temps unique, etc. Vous voyez, je souligne tout ça, mais en repérant bien, en classant au maximum toutes mes données. Est-ce que c'est un temps chronologique, passé, présent, futur? En sachant qu'en hébreu, c'est toujours difficile de déterminer passé, présent, futur, mais on peut y arriver. Vous avez vu avec le psaume 95 comment se détermine justement le rapport au passé et le rapport au futur. Évidemment, comme on est en poésie, vous avez aujourd'hui dans le psaume 95, et vous auriez attendu que ce qui s'oppose à aujourd'hui, c'est hier ou demain. Ben non, à la place d'hier, il y a quoi? Il y a vos pères. C'est-à-dire qu'on est projeté dans le passé, non pas par un... On a un équivalent sémantique. Vos pères, ça ne peut être que le passé. Vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne? Donc, vous soulignez avec une autre couleur le temps, et vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des mots dans votre texte qui appartiennent aux deux champs sémantiques de l'espace et du temps. Pourquoi pas? Ensuite, ça devient un peu plus calé. Ça devient un peu plus difficile, parce que on va utiliser, par exemple, les éléments qui sont présents dans le texte. Et les éléments qui sont présents dans le texte, là, je m'inspire pas mal du travail de Bachelard, qui a travaillé un peu qui a travaillé l'eau, l'air, etc., et le feu. Il y a un petit traité de Bachelard là-dessus, sur l'imaginaire que peut donner le feu, l'eau, la terre. C'est merveilleux comme travail. Toutes les métaphores qui utilisent cela. Et vous allez constater peut-être que dans votre psaume, il est question d'eau, il est question de feu, et il peut être question d'air ou de terre, les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais il peut y avoir un mélange, on verra ça la prochaine fois avec le psaume 2, il peut y avoir un mélange d'eau et de terre, et ça donne quoi, l'eau et la terre? Ça donne de la boue. Qu'est-ce que donne un mélange de terre et d'air? Ça donne de la poussière, très bien. De la terre, de l'eau et du feu, ça donne quoi? Terre, eau et feu. Ça donne de la poterie, des vases d'argile, vous voyez? Et la terre et le feu peut donner, par exemple, quelque chose comme le fer, l'outil en ferraille. Il faut du feu. Et il faut un minerai pour le faire. Donc, dans votre texte, il faudra être sensible à... Je n'ai pas forcément l'eau à l'état pur, je n'ai pas forcément l'eau qui va s'opposer au feu, à la terre et l'air. C'est rare que vous ayez dans un même psaume les quatre éléments bien présents. Il y en a où les quatre éléments sont bien présents. C'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'univers. Mais quelquefois, vous n'en aurez que deux, et il faudra vous demander pourquoi on n'a pas les deux autres. De même, l'autre jour, vous savez, avec le psaume 8, on a le soleil et la lune, mais on a la lune et les étoiles, mais on n'a pas le soleil. Bon, il faut toujours se demander pourquoi il manque un élément. Et surtout, de décrypter derrière la boue, que ça renvoie à quelque chose qui est un mixte. c'est de la boue, c'est l'eau et de la terre. Donc vous soulignez avec encore une autre couleur vos éléments. Donc il se peut encore que un même mot renvoie à de l'espace, à du temps et à un élément. Quatrième élément, les trois règnes. Les trois règnes, donc animal, végétal, minéral. Bon, alors, est-ce que dans mon texte, il y a des animaux? Quel type d'animaux, hein? Bovin, ovin, félin, canin, et oiseaux, etc. Bon. Par exemple, j'ai dû vous dire ça au début, mais tous les oiseaux, par exemple, dans les supplications individuelles des psaumes, renvoient à la fragilité des hommes, hein, par rapport aux attaques qu'ils peuvent subir. L'oiseau est synonyme de fragilité pour l'homme. Bon, les taureaux, au contraire, c'est dangereux, et les chiens aussi. Hein. Tous les chiens bibliques sont des chiens méchants, ça je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. Sauf le chien de Tobie, mais qui est un chien grec. Ah oui, non mais Argos, le chien d'Ulysse, ça ne peut pas se trouver dans la Bible, ça. Le chien qui reconnaît son maître quand il revient à la fin de... Et le chien meurt en revoyant Ulysse revenir, bon, ça c'est merveilleux. Ça c'est contraire à la Bible, tous les chiens sont des chiens méchants. Cinquièmement, les éléments cosmiques. Le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, la mer, le shéol, la lumière, les ténèbres, etc. Bon. Là encore, vous soulignez avec une autre couleur. Le corps humain, ou le corps, par exemple, qu'est-ce qui est présent? La tête, les mains, les doigts, les pieds, le ventre, enfin, il y a un élément du corps qui est là. Et puis, on va arriver au septième élément, qui sera l'élément plus spécifique du psaume, c'est-à-dire que, là, par exemple, un élément qui pourra se trouver dans certains psaumes, c'est le bonheur. Donc ce qu'on pourrait appeler le champ sémantique du bonheur. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme mot derrière le bonheur, voyez ? Je vais trouver également, éventuellement, Dieu dans mon psaume. Yahvé. Qu'est-ce qu'on met à côté de Dieu ? Qu'est-ce qui va dans la sphère de Dieu, etc. De même, je vais avoir des psaumes entiers consacrés à la loi. La loi du Seigneur est parfaite, etc. Réconfort pour l'âme. Et on va parler de la loi. On va parler de la sagesse. Et puis, il y a une sémantique très présente dans les psaumes, très fréquente, c'est la violence. La violence, elle est très présente dans les psaumes. Alors, bien, je dirais qu'avec les psaumes qu'on a déjà fait, c'est pour ça que je n'ai pas fait mon cours théorique au début, parce que ça ne vous aurait pas parlé, mais vous voyez maintenant l'utilité de faire ce genre de travail, le travail qu'on fait, qui en fait repose sur une technique qui est relativement précise. Alors, une fois que vous avez bien colorié votre texte, y a des couleurs qui vont se dégager par rapport à d'autres. Où à certains endroits, c'est coloré d'une telle manière, et à d'autres endroits, c'est une autre couleur qui apparaît dans le texte. Alors, il faut jouer avec vos stalibos ou stabilos pour faire cela. Cinquième élément, le problème des images ou des métaphores. Donc ça, c'est, on vient d'étudier les différents registres sémantiques ou les différentes... les différents champs sémantiques. Là, maintenant, je voudrais faire une petite finale sur la question des métaphores ou des images dans les textes. Alors, la métaphore, c'est en gros... Il y a trois figures de style qu'il faut que vous connaissiez, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais le psautier utilisera souvent la métaphore, mais il utilise aussi trois autres figures qui vont avec. Qui va faire jaillir du sens la belle Bose endormie. Est-ce que vous avez lu le livre de Ruth une fois dans votre vie, non? Oui. Bon, alors l'histoire est très simple, hein, c'est une femme qui est veuve et qui, bon, l'existence d'une femme seule n'a pas de, ça n'existe pas dans la société hébraïque. Elle est la fille de son père ou elle est la femme de son mari, mais elle n'a pas de statut individuel. Donc, il faut qu'elle se remarie. Et elle va, elle est très pauvre, et elle va glaner pour sa belle-mère dans le champ de quelqu'un qui est très riche, qui s'appelle Boaz. Boaz la remarque, bon, et puis il l'épouse à la fin. Le texte biblique est relativement discret. Mais Victor Hugo, évidemment, fait une merveille poétique et il imagine Boaz et Ruth dormant dans ce champ où elle a glané et il termine son poème de la manière suivante. Alors, imaginez des gens couchés dans un champ qui a été fauché, hein. Une nuit étoilée absolument magnifique. Et ça vous donne ça chez Victor Hugo. Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Alors ça c'est de la métaphore. Vous voyez un peu ce que c'est qu'une métaphore, hein? Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Bon, ça, c'est, pour moi, c'est une des plus belles. Hein. Il y en a d'autres, hein, en français, qui sont très belles, même chez les auteurs anglais ou allemands. Mais celle-là, quand même, elle vaut son pesant d'or. Hein. Elle est très, très belle. Donc, on a rapproché le champ où ils sont allongés, hein, le champ moissonné, le champ où ils ont glané. Et puis, on rapproche ça, eh bien, du ciel étoilé. Et aujourd'hui, je dirais que c'est devenu une métaphore morte, puisque on parle du champ cosmique. Hein, on parle du champ cosmique, on parle du champ céleste. Et c'est complètement banalisé. Mais le jour où Victor Hugo invente l'idée de le champ des étoiles et le moissonneur de l'éternel été, bon, ça. Puis c'est dit en plus de ça avec un langage extraordinaire. Hein. Vous voyez un peu, donc. Les métaphores, c'est génial et il faut les repérer dans les textes. Vous pouvez avoir des métaphores. Alors, une métaphore affaiblie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout à fait jouer ensemble les deux réalités, ce sera la comparaison. Par exemple, vous l'aviez dans « Les montagnes sautent comme des béliers », ou « Les collines comme des agneaux », le « comme ». La comparaison, c'est affaiblir un peu la rencontre des deux réalités, hein, dans le psaume 114. Mais, par exemple, dans le poème de Saint Jean de la Croix, sur la nuit obscure, il dit « mon bien-aimé, les montagnes ».« Mon bien-aimé, les montagnes ». C'est-à-dire qu'il ne dit pas « mon bien-aimé » comme les montagnes. « Mon bien-aimé, les montagnes ». Vous voyez, il rapproche les deux comme une espèce de… Et tout de suite, ça fabrique du… Ça met le feu à l'imaginaire. Au fond, le but d'une métaphore, c'est de mettre le feu à l'imaginaire. C'est à ça que ça sert. Et du coup, dans la Bible, et le Cantique des Cantiques, je dirais qu'on est dans la métaphore d'un bout à l'autre. Le corps des époux n'est jamais leur corps. Il est toujours autre chose. Il est symbole d'autre chose. Alors, le symbole, c'est la même chose que la métaphore. Sinon, que le symbole est une réalité qui peut être matérialisé, par exemple, porter une alliance au doigt est un symbole, hein, que je suis lié à quelqu'un, etc. Bon. La métaphore, c'est un symbole de langage, c'est-à-dire c'est un symbole qui advient dans le langage. On pourrait dire que la parabole, c'est une métaphore en récit. Hein. Un récit métaphorique, ça s'appelle une parabole. Hein. Le royaume des cieux est semblable à… Bon. Et quand Jésus nous parle des réalités les plus extraordinaires, bon, qu'est son Père, il est obligé d'utiliser des métaphores. Je ne peux pas faire autrement. Hein, la métaphore permet finalement, à partir d'un monde, d'en décrire un autre. Et il y a une espèce de correspondance. Alors moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup en français, qui est Baudelaire, ou Verlaine, bon, qui joue continuellement avec le système de ce qu'il appelle les correspondances. Hein, les correspondances entre les choses, et c'est ça, au fond, le poète est capable de saisir ces correspondances. Voyez un petit peu qu'est-ce que c'est que le langage poétique, hein, c'est quelque chose de puissant, pour exprimer l'inexprimable. C'est toujours ça. Avant qu'on fasse la pause, encore une petite phrase d'un auteur que j'ai un peu fréquenté. Parce que la Compagnie de Jésus m'a fait faire... Je voulais faire des mathématiques ou de la physique, et la Compagnie m'a fait faire des lettres classiques. Bon, j'en ai profité. Mallarmé est un poète un peu obscur en français, bon. Et il se plaint dans une lettre à un ami en disant « Mais nous, poètes, on est obligé d'utiliser ce que les gens utilisent tout le temps, c'est-à-dire les mots. » C'est-à-dire que vous lisez un poème, bah, en gros, tous les mots, vous les comprenez. Vous ne comprenez pas forcément le sens du texte, mais vous comprenez au moins tous les mots. Même chez un poème comme Mallarmé, il ne peut pas aller chercher un mot en dehors du dictionnaire par certains côtés. Le musicien, il a l'avantage qu'il écrit sa partition de musique, et celui qui n'est pas musicien n'y comprend rien. Hein, sauf si, une fois qu'elle est interprétée, bon là, je peux la réécouter, etc. Mais une partition de musique, moi, ne me dit rien. Un tableau, c'est déjà plus difficile d'entrer dans le tableau, mais enfin quand même, avec un certain nombre de codes, de clés, on arrive à rentrer dans un tableau, que ce soit un Bruegel ou un impressionniste, il y a des clés pour rentrer dans le tableau et voir un peu ce que l'auteur... Mais ce que l'auteur a voulu dire au plus profond souvent m'échappera, si je ne connais pas très bien le contexte, ni même la manière dont le tableau a été, son époque, etc. J'ai eu un très beau cours de M. Caron, là, qui est prof de Cagnes à Sainte-Marie de Neuilly. Il nous a fait sentir un peu toute la société par les peintres flamands, vous voyez, c'est-à-dire y compris la naissance même d'une nouvelle société avec la banque, avec le commerce, avec bon, et tout ça évidemment en peinture. Et ça traduit énormément de choses, et ça en dit beaucoup plus rapidement que de gros livres qui sont écrits sur le sujet ou sur la période. Alors du coup, Mallarmé, devant cette difficulté, il dit, bien, nous, poètes, au fond, on est obligé de reprendre les mots de tout le monde, mais pour que ça fasse quand même un petit peu poésie, on est obligé de les employer dans un sens où ils ne sont pas forcément employés dans le langage courant, et surtout, nous allons les mettre avec d'autres mots avec lesquels, généralement, on ne les met pas. C'est-à-dire, on va créer un langage à partir d'un langage. C'est ça, le poète. C'est celui qui est capable de créer son propre langage. On fait une petite pause avant d'attaquer le psaume 1. Hein. Voilà. Donc là, vous avez les dernières clés en main pour lire les psaumes. Alors, on va étudier le psaume 1 en nous servant de notre boîte à outils. Hein. Tout d'abord, quelques jugements sur la poétique du psaume 1. Ensuite, une étude de la symétrie du texte, enfin les structures du texte, sur lequel je vous ai donné un peu tout ce qu'on a essayé de faire. Hein. Bon, c'est la dernière fois, hein, parce que je ne vais pas me passer mon temps à vous donner tout ce qu'ont fait les collègues, mais pour vous montrer que c'est pas si évident que ça de trouver une structure. Hein. Au moins, il faut que vous sachiez que... moi, je vous en propose une, qui est la mienne, bon, que j'estime pas... Comme disait un de mes profs à Fourvière, quand j'étais étudiant en théologie, vous allez passer un examen, il faut des réponses simples est exacte. Et les réponses exactes, c'est les réponses du professeur. Bon. Alors, c'est justement dans autre chose que je voudrais vous embarquer, à savoir que vous pouvez très bien trouver une autre structure que la mienne, à condition qu'elle soit justifiée, voilà. Et on pourra s'accommoder. Mais je prétends pas du tout avoir trouvé la structure des 150 psaumes. Il y en a que on n'a pas trouvé avec Jean-Noël Aletti. Les psaumes démontés, on n'a pas trouvé. Comment c'est foutu? Bon. Mais ça fera le travail quand on sera mort, ou dans une autre vie, on fera ça. Alors, la poétique du psaume 1. Les avis sont très partagés sur le caractère poétique de ce texte. On a d'abord des avis négatifs, et je vous en lis un qui est écrit par un grand commentateur du psautier, qui s'appelle Hermann Gunkel, qui est probablement un des plus grands exégètes du XXe siècle, fin XIXe et milieu XXe, mais certainement un des plus grands. Mais évidemment, on peut se tromper. Mais voilà ce qu'il dit sur le psaume 1. Le psaume est une création de peu de valeur. Le style et l'idée suivent un sentier battu. Le sort des justes et des méchants apparaissent dans la Bible en de nombreux endroits, et les images également, l'arbre vert et la balle, sont fréquentes et rabattues. Le psaume est analogue à Jérémie 17, 5-8, que je vous avais donné à regarder, mais combien lui est supérieur en beauté Jérémie, car Jérémie établit un parallélisme bien fait entre les justes et les méchants, l'arbre et l'arbre sec, hein, l'arbre vert et l'arbre sec. Vous voyez, Gunkel, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Hein. On a le droit de ne pas aimer un poème. Hein. Voilà. Alors, au vrai, c'est un sulpicien qui a commenté les psaumes, sa banalité lui valut d'être placé ici tel un portique de stuc à l'entrée d'un riche musée. Alors, un avis positif quand même. Le psaume 1 peut être considéré comme une véritable œuvre d'art littéraire, comme le caractère artistique d'un texte ne s'exprime pas seulement dans l'originalité de la pensée, du message et de l'expression et de l'imagerie, mais aussi de la manière dont les éléments séparés se combinent en un tout signifiant et unifié. Sur le plan de la composition, le psaume 1 est une création artistique. Sa forme est appropriée à sa pensée et à sa visée. Donc, vous voyez, Gunkel est plutôt sensible à dire, finalement, bon, il a piqué son idée à Jérémie, le psaume 1. Très bien. Et Jérémie, il a tout un chapitre où il développe en parallèle les méchants et les bons, l'arbre vert et l'arbre sec, etc. Enfin, c'est parfait comme cathédrale. Le psaume 1, il n'est pas foutu de faire une comparaison un peu étalée de l'affaire. L'avis positif que je vous ai donné, c'est quelqu'un qui vous dit « Oui, d'accord, il reprend des idées qu'on trouve un peu partout dans la Bible, mais il les recycle de façon originale et surtout la forme est parfaitement adaptée à ce qu'il veut dire. » C'est ça qui est intéressant dans le jugement de... C'est un Espagnol qui dit ça. Alors, sur le plan, peut-être je vous dis quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce psaume-là est probablement postérieur au Christ. Vous avez quelquefois dans l'idée que l'Ancien Testament est fini quand le Nouveau commence. Il n'en est rien. L'Ancien Testament a encore connaît encore des mutations, et le psaume 1 a probablement été écrit comme une préface au psautier, comme le montre bien le texte de Chouraki que je vous ai donné, qui est un très beau texte, il faut lire ça tranquillement. Hein. Les vacances de Noël sont un temps approprié pour ce genre de lecture. Mais lisez ça, vous verrez que c'est assez bien fait comme portique au psaume, bon, non pas les deux voix, mais parce qu'il n'y en a qu'une en fait. Hein. mais de présenter un peu ça. Alors, ce psaume-là aurait pu être écrit peut-être au deuxième, au fin du premier siècle, après le Christ. Pourquoi ? Tout simplement parce que, aussi bien à Qumran que dans le Nouveau Testament, on cite le psaume 1, et la citation, en fait, est tirée du psaume 2. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le psaume 2 a probablement été le premier psaume. Et le 1 est venu couronner l'ensemble du psautier quand on l'a fermé assez tardivement. À Qumran, c'est la même chose. On cite le psaume 1, qui est le psaume 2, et le psaume 1 semble ne pas exister. Qumran, ça se termine en 68 après Jésus-Christ. Donc, ce psaume-là est très tardif, hein, très certainement. Et en tout cas, il se présente un peu comme la préface du psautier, et il est intéressant en raison, disons, de ce qu'il transporte un petit peu comme idée. Alors, vous avez vu les différentes traductions que je vous ai données, hein, y compris le Targoum, bon, ou le, par certains côtés, le au verset 3, hein, on peut dire qu'au verset 3, il développe la métaphore un peu plus que le verset, que le psaume lui-même. Il sera comme un arbre qui est planté près des rives des eaux, qui mûrit son fruit en son temps et son feuillage ne se flétrit pas, et tous ses fruits qu'il fait pousser produisent des graines et des semences et ils prospèrent. Il en rajoute une louche un petit peu. De même, il en dit un petit peu plus au verset 5, « C'est pourquoi les impies ne se lèveront pas au jour du grand jugement, ni les pécheurs dans une foule de justes. » L'écart est minime, enfin, il est présent. Je ne vois pas beaucoup de différence entre la Septante et le texte massorétique, ce qui probablement est un signe de... On l'a retraduit peut-être après de l'hébreu. Alors, quelle est la structure de ce texte-là? Comme le montre la fiche de travail que je vous ai donnée, sur lequel je vous dis, je vous donnerai de moins en moins ce genre de choses, c'est pour que vous vous rendiez compte que trouver une structuration ne va pas de soi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui écrivent à des époques différentes. Je n'ai pas mis les dates, mais enfin... Certains sont très... Si vous avez les dates dans la feuille, hein. Mais il y a des choses à la fois très récentes, hein. Il y a des choses qui ne sont pas très, très anciennes dans ces travaux. Et on voit bien que, bah, par exemple, Gunkel, est repris par Deisler est mort il y a 10 ans, peut-être à peu près, on fait le psaume deux parties, hein, ça va de soi, 1 à 3 le juste, 4 à 6 les impies. Hein, on a un truc... Et puis, bon, par exemple, Krauss, qui a fait un grand commentaire des psaumes, 1 à 3, le juste, 4 à 5, l'impie, 6, on résume et présente les deux voies. Hein, chemin de juste connaît, etc., et chemin d'impie se perd. Bon. Alors, personnellement, moi, je préfère la structure que je vous ai donnée. Quitte à la remettre en question, mais je serais ravi si vous m'en proposez une. Hein. Je la mettrai dans le papier. Hein. En fin de compte, on a plusieurs structures à l'intérieur du texte. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir dans un texte plusieurs structures qui vont se combiner. Par exemple, une structure concentrique peut aller avec des structures alternées. Hein, et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer. Bon, il y a une inclusion, mais une inclusion sémantique, ce n'est pas une inclusion lexicale. Conseil des méchants, assemblée des justes, c'est antinomique, hein, c'est-à-dire deux choses qui sont contraires l'une de l'autre, et l'un au début, l'autre à la fin. Donc ici, quand je vous dis qu'il faut surtout faire vos parallélismes sur le vocabulaire, on peut faire aussi du parallélisme sur le sémantique, mais c'est un peu plus risqué. Mais ici, je me risque à le faire. Bon, en gros, le parallélisme pour l'homme heureux est un parallélisme alterné. Hein, et les méchants, gros, c'est également un parallélisme alterné qui correspond au premier. Par exemple, petit a, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il fait, une comparaison, petit c, leur destin. Versets 4 et 5, les méchants, ce qu'ils ne sont pas, verset 4, B', la comparaison, et C', leur destin. Vous voyez, on a, à mon avis, ça se défend, ça. Ou alors, quelque chose de plus global que je vous ai donné en haut de la page 7, qui est donc les méchants et les justes, etc. Alors, on va passer maintenant au registre des métaphores, c'est-à-dire à l'approche sémantique. Et là, je vous avais déjà donné un fiche, disons, qui disait en gros ce que je viens de vous dire de manière un petit peu détaillée, hein, les différents registres spatial, temporel, les éléments et les ordres de la nature, et enfin le registre anthropologique, là, qui est le registre un peu particulier du texte ou le registre de la loi. Alors, c'est ça qu'on va faire maintenant, voir comment ça fonctionne. Alors, le registre des images. Bien. La Bible, c'est intéressant, utilise 250 images empruntées à la flore. Il y en a beaucoup plus empruntées à la faune. Hein. C'est-à-dire le quart des images contenues dans la Bible, qui en comprend à peu près un millier. Il y a 1000 images dans la Bible, et vous en avez donc 250 qui sont des images florales, et des images animales, il doit y en avoir beaucoup plus. Puis après ça, il y a les montagnes, il y a les éléments. L'image de la balle et de l'arbre peuvent avoir deux fonctions sémantiques. La première illustrerait la récompense des justes et la punition des méchants, et la seconde décrirait la nature du juste et des méchants. En fin de compte, en faveur de la première, on peut invoquer trois arguments. Le verset 3, « Il réussit tout ce qu'il fait » a pour sujet l'homme mentionné au verset 1. L'usage habituel de l'arbre dans la Bible est souvent une métaphore de succès et de prospérité. Ça marche assez bien pour l'homme juste. Et puis enfin, le mot « paille », souvent, il revient 8 fois dans la Bible, hein. Et à chaque fois pour illustrer le châtiment qu'on inflige aux méchants. Vous voyez, donc, je regarde un petit peu comment la paille. Bon, la paille, ça revient 8 fois, c'est pas beaucoup, hein. Mais à chaque fois, ça a le même sens. Donc, je vais essayer de tenir compte de ça. Alors, reprenons un petit peu ces différentes métaphores. L'arbre, eh bien, il peut désigner à la fois le juste ou l'impie. Par exemple, je prends le psaume 92, verset 13. Le juste pousse comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban. Justus ut palma florebit, etc. Le juste fleurit comme un palmier, comme un cèdre du Liban. Là, c'est un arbre précis. De même, dans Job, car il existe pour l'arbre un espoir, on le coupe, il reprend encore et ne cesse de surjeûner, que sa racine ait vieilli en terre, que sa souche soit morte dans la poussière, dès qu'il flaire l'eau, il bourgeonne et se fait une ramure comme un jeune plant. Donc l'arbre peut et symbole à la fois de quelque chose qui ne peut pas être atteint, en quelque sorte. Alors ici, l'arbre va désigner l'homme juste. Mais quelquefois ailleurs dans la Bible, ça désignera le méchant. Deuxièmement, l'arbre est planté près du cours des eaux. Alors, planté est une expression spatiale, car je suis obligé de dire planté dans la terre près du cours des eaux. Un arbre est toujours planté dans la terre, c'est pas dit, mais ça suppose qu'il est planté dans la terre, près du cours des eaux, et des eaux qui sont, comment dire, vives, hein, des eaux qui coulent, pas des eaux tranquilles ou des eaux stagnantes. Or, cette expression ne revient pas souvent dans l'Ancien Testament, mais ça revient dans le fameux chapitre 17 de Jérémie. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau, il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert, une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de fructifier, ce que dit Jérémie pour les justes. Vous voyez, c'est Jérémie, effectivement, il y a plus de développement. Bon, c'est le même verbe qui est employé dans le psaume et dans Jérémie. Dans l'expression « le cours d'eau », c'est pas très fréquent non plus dans l'Ancien Testament, ça ne revient que 8 fois, le cours d'eau, mais ça indique en quelque sorte une eau qui est qui coule. Hein, une eau, c'est d'ailleurs le contraire d'une eau stagnante. Jamais son feuillage ne sèche, eh bien, ça c'est pour dire justement que si on est près de l'eau, si on est bien planté en terre, eh bien par certains côtés, il n'y a pas sa vie, quoi. Donc, heureux est l'homme qui ne va, etc. Bon, la paille est toujours négative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, la question qui est derrière ça, c'est évidemment... Qu'est-ce que veut dire ce texte? Qu'est-ce qui veut dire le psaume? Et pourquoi il a besoin d'une métaphore? Et ici, une métaphore atténuée, puisque c'est sous forme de comparaison. Et en gros, ce qu'on dit du juste doit correspondre à ce qu'on dit dans la métaphore. Il doit y avoir un parallèle entre l'image et la réalité. Alors, c'est assez... Vous remarquerez quand même que le psaume commence par « béatitude de l'homme ». Bon, vous pourriez traduire « heureux », mais en hébreu, ce serait plutôt un adverbe qu'un... Alors, béatitude de l'homme, et il n'est pas allé, là on est sur un espace où ça marche, hein, dans le conseil des méchants, sur le chemin des pécheurs, on a encore un espace dynamique, hein, chemin ou bien aller, on se déplace sur un espace, bon, et cet espace-là est habité par les méchants. Et puis, au milieu de cette marche, de aller sur le chemin, etc., ou dans le conseil, ne s'est pas arrêté. Donc, cet espace dynamique, à un moment donné, on s'arrête, et même sur le siège des railleurs, ne s'est pas assis. C'est-à-dire que, non seulement on s'arrête, mais on s'assoit. Donc, vous voyez, on a le début du psaume commence par un espace sur lequel on circule, tout d'un coup, on s'arrête, et on s'arrête vraiment puisqu'on s'assoit. Alors, on vous dit que le juste, il est tout seul, hein, il est au singulier, alors que les méchants sont toujours au pluriel. Tiens, c'est intéressant. Parce qu'on aurait pu, la comparaison aurait été parfaite si on avait « heureux sont les justes », alors ça coûtait pas cher en hébreu de mettre le pluriel. Non, justement, le juste, c'est toujours quelqu'un qui se trouve au milieu des méchants. Et on insiste sur la singularité ou l'individualité de se retrouver là. Or, être heureux pour l'homme consiste à ne pas faire des choses, c'est-à-dire à ne pas aller, à ne pas s'arrêter, à ne pas s'asseoir à certains endroits. Mais, au contraire, donc, alors, après avoir dit ce qu'il ne fait pas, on dit ce qu'il fait. Mais, au contraire, dans la loi de Yahvé, son plaisir, dans la loi, et dans la loi, il murmure jour et nuit. Donc, en gros, heureux est l'homme, ça peut vouloir dire il est heureux l'homme qui fait ça, hein, qui ne fait pas des choses et qui en fait d'autres. Et d'autre part, ça peut vouloir dire que le bonheur consiste à faire cela. C'est-à-dire, tu seras heureux si tu ne fais, si tu ne suis pas les méchants, si tu ne t'assois pas, etc., dans leurs assemblées. Et au contraire, si tu te plais dans la loi de Dieu, et dans la loi, tu la murmures jour et nuit. Alors, verset 3, la comparaison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ou près du cours des eaux, qui son fruit donne en son temps, oui, je vous ai traduit le plus mot à mot possible, et son dessus des feuilles. Il a dessus des feuilles. Il ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait réussit, etc. Alors, je vais vous poser une petite question quand même. Donc, j'ai